demande-t-il en 2017. Mais donc, il ne dit plus qu'il devait être parti le 19 et disparaître complètement. Il dit qu'il peut rester exercer un mandat de fait, mais il doit organiser les élections et donner un calendrier clair et définitif. Sur cette base-là, on peut trouver un accord, mais il faut que la date des élections soit fixée clairement et que lui aussi s'engage, le président Kabila s'engage à ne pas changer la constitution et à ne pas ouvrir la porte à un troisième mandat.
Oui. Gardez la ligne, Colette Brackmann. On va recevoir des auditeurs qui sont déjà en ligne. Cédric Longanga, qui est à Kinshasa. Cédric, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Cédric Longanga, parce que la capitale de Kinshasa.
Oui, voilà. Après 2 jours de paralysie, la vie reprend lentement à Kinshasa.
La vie n'a pas repris normalement parce que dans certaines communes, il y a eu des affrontements et dans certaines villes du pays, il y a eu des affrontements continus parce que M. Kabila n'a pas écouté la voix de la rue, n'a pas écouté la population, n'a pas écouté le peuple congolais. Il a fait ce qu'il a voulu faire et voilà l'ingouvernabilité du pays.
Oui, et quelle sera l'issue? Allô, Cédric?
Quelle
sera l'issue de tout ça?
Vous dites?
Quelle sera l'issue? Est-ce que vous allez continuer à protester jusqu'à ce que Kabila se remette en cause?
Oui, nous allons continuer à manifester parce que le vœu de la majorité du Congolais, c'est que Kabila ne continue pas à diriger le pays, il ne continue pas parce que jusqu'à présent, il nous amène dans une incertitude profonde. Depuis 5 ans, il n'a pas fait organiser les élections. Il précipite de promulguer, de publier un gouvernement. C'est le contexte. Aucun pays au monde n'a connu un tel gouvernement de plus de 60 ministres avec un budget de 4 milliards. Ils ont organisé les élections. Maintenant, ils nous amènent dans une incertitude. Voilà pourquoi la majorité des Congolais veut que M. Kabila quitte le pays, quitte la tête du pays. On l'a amené dans une courte transition. La Constitution nous autorise à ce que le président du Sénat nous amène à une transition de nombreux jours, suivant laquelle il pourra organiser les élections. Mais pas avec le gouvernement. Je condamne aussi la transition de la CNCO parce qu'ils n'ont pas condamné la colonisation du gouvernement. Maintenant, ils lancent un ensemble que d'ici l'heure, il faut qu'il y ait un consensus. C'est inadmissible.
Oui, Cédric, Cédric.
CNCO, il dit qu'à l'issue de ces assises, il y aura probabilité qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais combien va-t-on en avoir?
Cédric,
Cédric, encore un autre après les conclusions de l'évaluation.
Cédric, il faut savoir que la CENCO joue le rôle de la médiation, mais pour dire à le gouvernement qui est déjà mis en place qu'il est contre, peut-être les évêques ne veulent pas le dire tout haut, mais entre les quatre murs, entre les parties prenantes, peut-être ils disent quelque chose. On va recevoir Diallo Tcherno, qui est déjà en ligne. Bonsoir.
Allô, oui, bonsoir, la VOA.
Vous avez la parole, Tcherno. Que pensez-vous de l'ultimatum des évêques?
Je suis convaincu que désormais les lignes vont bouger pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise.
Oui.
Puis l'ultimatum donné par les évêques après le retour du Vatican. Dans 72 heures, les dignes, selon moi, je suis convaincu que dans 72 heures, les dignes fils de la RTC vont se retrouver autour de la table pour trouver des solutions définitives de cette crise. Ils sont tous de religieux. Ils vont forcément respecter les hommes de l'Église. Là, je suis convaincu là-dessus. Si les hommes politiques acceptaient à se comprendre entre eux au nom de la paix et l'unité du Congo, ça serait la plus grande importance du cadeau du Noël de l'histoire de la RTC que les hommes politiques ont offert au peuple congolais. Parce que la stabilité du Congo est plus importante que dire que Tshisekedi ou autre Kabila au pouvoir. C'est le Congo avant tout. C'est ce qui est plus important. Les hommes politiques.
Et c'est aussi le respect des principes.
La parole des évêques.
Et c'est aussi le respect des principes.
Ils ont proposé un ultimatum d'ici le Noël pour trouver des solutions définitives pour la sortie de crise. J'encourage aux jeunes de lutter, mais pacifiquement, parce que rien que la paix. Après Kabila, le Congo demeurera pour toujours.
Merci, merci Tierno.
Non à la violence, vive l'alternance démocratique Afrique.
Merci Tierno pour votre contribution. Il y a Christian Djerabé qui est déjà en ligne avant de retourner vers Colette Brockman. Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez la parole.
Oui, par rapport à la position des évêques, je trouve que c'est très bien de donner l'ultimatum.
Oui.
Mais cet ultimatum, pourquoi n'est pas adressé directement à M. Kabila? Parce que nous savons que les opposants ne veulent pas le maintien de Kabila au pouvoir. Donc, normalement, les évêques devraient adresser cet ultimatum directement à Kabila que de poser à toute la classe politique.
Je pense que l'ultimatum est lancé à l'endroit de tous, hein, y compris Kabila. N'est-ce pas, Colette Brockman?
C'est à l'égard de tous les négociateurs. Il faut bien voir que la négociation actuelle, elle est très réduite. Il n'y a plus que 10 personnes qui négocient, 5 de chaque côté, 5 pour le rassemblement de l'opposition, 5 qui sont des porte-parole du président. Donc c'est très proche, quoi. C'est très petit. On négocie dans un mouchoir de poche avec très peu d'interlocuteurs, donc qui sont liés directement à leur chef, si vous voulez.
Oui. Colette, il y a notre auditeur de Kinshasa qui nous disait tout à l'heure, c'était Cédric, que la population est prête à poursuivre les manifestations jusqu'au départ de Kabila. Est-ce que vous pensez que l'opposition et la population ont vraiment les moyens et, disons, le courage de continuer?
Le courage, oui, mais les moyens, les gens vivent au jour le jour, ils doivent vivre tous les jours, doivent trouver de quoi manger, de quoi gagner un petit peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment très difficile. En plus, ils ont affaire à un service d'ordre extrêmement, des services de police et de militaires très très durs, qui n'hésitent pas à tirer dans la foule. On a dénoncé d'ailleurs l'usage excessif de la force, donc les gens risquent leur vie. Mais il y a d'autres formes de résistance, il y a des formes de résistance passive, et je pense que les Congolais, ils en avaient déjà commencé avant le 19, mais ils vont trouver beaucoup de moyens de s'exprimer, et je crois qu'on ne peut pas gouverner un pays par défi contre l'avis de la majorité de la population, qui peut exercer aussi une sorte de résistance passive. On ne fait pas avancer un pays comme ça.
Et dans l'argot quinois, l'on parle de l'officieux article 15, qui est très, très significatif, qui dicte la débrouille et la survie. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans plusieurs villes.
C'est une obligation. Les gens sont obligés de pratiquer l'article 15 parce qu'ils doivent y vivre au jour le jour. Donc, il faut bien qu'ils nourrissent leur famille, qu'ils se mettent en route. Mais ça n'empêche pas leur liberté de penser ni leurs opinions. Et par exemple, déjà bien avant le 19, quand les gens, lors des matchs de football, terminaient le match en disant « Kabila doit partir », les gens s'expriment. Il y a une... Les gens conquièrent leur liberté d'expression, et je pense que ça va certainement se maintenir. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre le cri des Congolais.
Oui, nous recevons Fiston qui est en RDC. Gardez la ligne, Colette. Fiston, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous avez la parole. Qu'est-ce qui se passe maintenant chez vous, là où vous vous trouvez?
Non, notre maison, c'est la départ de Kabila, la départ de Kabila.
Que pensez-vous de cet ultimatum des évêques?
Oui, les évêques sont des bonnes idées. Oui.
Oui, vous parlez...
Alors?
Oui, vous parlez du départ de Kabila, mais quand? Parce qu'on sait que Étienne Tshisekedi exige une transition pacifique et le départ de Kabila en 2017.
Oui, nous voulons que l'éteinte, c'est ce que les menaces de la transition.
Vous voulez que ce soit lui qui pilote la transition à la tête du pays, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, mais comment allez-vous faire avec cette question de survie de tous les jours, la survie au quotidien? C'est ce que même disait tout à l'heure Colette Brackman. Est-ce que vous pensez que vous avez ces moyens de poursuivre votre lutte de la manière dont vous le faites maintenant? Fiston? Je pense que Fiston n'est plus là. Voilà, on revient vers... Allô, Fiston? Je pense que Fiston n'est plus là. Voilà, nous avons un autre auditeur en ligne, c'est Youssouf Ouedraogo. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir à la Voix de l'Amérique, bonsoir à la rédaction, aux auditeurs.
Voilà, il vous écoute, vous avez la parole.
Écoutez, moi je dis que Dieu aura du mal à cautionner les mensonges. Ça sent déjà l'enlisement, parce que avec un tel ultimatum de l'Église catholique, cela est annonciateur d'un blocage assez profond. C'est-à-dire que malgré sa bonne foi, l'Église aura fort à faire pour essayer de rapprocher les positions corrompues, que ce soit du côté du camp de M. Kabila ou de l'aile radicale de l'opposition. Alors moi, je dis qu'à ce jour-là, il est à craindre que l'armée congolaise, au regard des injonctions extérieures, ça et là, que cette armée-là prenne position dans un sens comme dans l'autre. Autant le président Kabila doit entendre raison et se résoudre à respecter le terme des deux mandats de la Constitution pour mettre un terme aux suspicions. Autant nous disons que l'opposition doit avoir mesuré les risques de développement auxquels le pays fait face aujourd'hui. Et depuis hier, ces violences-là sont en train de monter d'un cran assez très inquiétant. Et nous pensons qu'il serait quand même raisonnable que chacun essaie d'appliquer un peu sa position pour éviter que bien des salles qui sont assez chaotiques pour la RDC et pour la tête du bassin général.
Merci Youssouf pour votre contribution. Colette Brackman, vous avez entendu notre auditeur de Yamoussoukro. Sur la question de l'armée, comment vous l'analysez? Est-ce que Kabila a le contrôle total sur son armée?
Je crois que Kabila contrôle certains éléments de l'armée, certainement au niveau de la hiérarchie, aussi au niveau d'un certain nombre d'officiers qui sont ce qu'on appelle les fameux Banyamulenge des Tutsis congolais, qui ont participé aux différentes guerres, qui sont des militaires, des soldats aguerris, qui ont été promus et qui occupent des postes clés dans l'armée et qui sont fidèles au président Kabila. Donc il peut compter sur eux, il peut compter aussi sur sa garde républicaine qui a été bien équipée, bien formée et qui lui est fidèle. Mais l'armée, c'est la grande muette. On ne sait jamais jusqu'où ça va. Et aujourd'hui, si le président est désavoué, d'abord il est hors mandat, donc il a perdu sa légitimité. Mais s'il est clairement désavoué par la population qui s'exprime non d'une manière non violente, mais de plusieurs façons, et désavoué aussi par l'Église catholique, qui est une force morale très importante au Congo, sa position est très difficile et il n'est pas impossible que des militaires prennent une décision et qu'il y ait des mouvements, même si, je vous dis, apparemment, il contrôle assez bien son armée.
Mmh. Nous allons au Burkina pour retrouver Richard Zongo. Richard, bonsoir. Richard, est-ce que vous êtes là? Il est parti. On reçoit Oscar qui est au Bénin. Oscar.
Bonsoir.
Bonsoir, vous avez la parole.
D'accord. Ce que moi j'aimerais dire, les prêtres, les évêques plutôt ont fait une déclaration, soit en disant qu'ils donnent ultimatum aux acteurs politiques. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est à Kabila qu'ils ont demandé ou bien c'est à l'opposition.
C'est à tout le monde.
Parce que la seule personne...
C'est à tout le monde. C'est à tout le monde. C'est à tout le monde, Oscar.
Oui, c'est ce que je voulais savoir.
Ouais.
La seule personne qui peut sortir la RDC de la violence et du chaos aujourd'hui, à qui donner ultimatum, à notre avis, c'est Kabila. Et sans vous mentir, les États ne peuvent en aucun cas chercher à contourner la vérité. Elle n'a pas dit la vérité, bien à Kabila de partir.
l'Église catholique, moi je suis une adepte de l'Église catholique, l'Église catholique est fondée sur la vérité. Même si ça va faire mal, il faut le dire. La seule personne à qui on pouvait donner l'ultimatum, c'est Kabila. Mm-hmm. Pourquoi on contourne aujourd'hui? Ou bien, quand les évêques ne peuvent pas, comment on appelle, faire passer le message des fidèles de l'Église catholique à Kabila, sont en disant d'avoir l'amour du cœur, d'avoir l'amour de Dieu. Et laisser le pouvoir partir. Il a déjà fait son mandat.
Oscar.
Il faudrait pas qu'il se... C'est ce qui constitue aujourd'hui. C'est ce qui constitue le grand problème de l'Église catholique.
Oscar.
Nos autorités religieuses ne veulent pas dire la vérité car il faut le faire.
Oscar.
Mais
Oscar.
Je voudrais savoir
Oscar.
Ils ont peur pourquoi.
Oscar.
Peur de dire la vérité
Oscar.
À Kabila.
Oscar, gardez la ligne, mais je voulais vous rappeler que l'Église s'était retirée de ces négociations parce qu'elle exigeait à Kabila de bien préciser la date de son départ. Et l'Église est revenue pour tenter une médiation de dernière chance, c'est ce qu'on a dit, pour qu'il y ait un accord. Faut-il le faire partir comme ça? Je ne crois pas. Colette Brackman aura peut-être une réponse à donner. Colette?
Il faut pas oublier que la médiation de la CENCO, maintenant, elle a lieu à la demande du président. Le président est allé voir le pape en septembre, au lieu d'aller aux Nations Unies, il est allé voir le pape. Donc il a fait cette démarche pour demander une médiation, parce que sinon on n'en sortait pas. Et l'Église était déjà partie, parce que l'Église n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Elle n'était pas d'accord avec la manière dont les élections se préparaient, parce que par le réseau des paroisses et tout, elle était au courant de beaucoup d'irrégularités de la commission électorale. L'Église était déjà presque en rupture et c'est finalement à la demande du pape Benoît que les évêques sont revenus à la charge et ont tenté cette médiation. Mais je pense qu'ils n'ont pas d'illusion et que si on les roule dans la farine, ils vont arrêter. Et c'est pour ça que le Monseigneur Outhembi a donné un ultimatum en disant maintenant ça suffit, d'ici Noël on doit trouver une solution. Et dire qu'il s'adresse à la classe politique, c'est vrai, mais quand il s'adresse aux 5 personnes qui représentent M. Kabila, il s'adresse évidemment directement à M. Kabila. Il faudrait être sourd pour ne pas l'entendre.
Mmh. On reçoit un dernier appel d'un auditeur et nous revenons vers vous à Colette avant de clôturer. Molila, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous avez entendu les évêques, cet ultimatum, est-ce que ça vous rassure?
Non, en tout cas, cet ultimatum, ça me rassure. Bon, de toute façon, ce que nous avons d'abord été dit ici, il y a un moment où le prélat nous a dit que, de toute façon, on ne pouvait pas aller à la hâte pour trouver des solutions. Sinon, le problème est très complexe. Alors, on ne sait pas tout d'un coup que le prélat maintenant se donne un ultimatum.
Mais ils ont exigé.
Parce que les choses vont toujours allonger à l'air. Mais ça, je ne vois pas que cet ultimatum peut vraiment être une solution au problème aujourd'hui et actuel.
Ils ont exigé un accord. Ils ont exigé un accord avant Noël. Ils ont exigé un accord avant Noël. Il ne reste que quelques heures. Faut-il être patient et attendre, voir ce qui va en sortir?
Non, de toute façon, je veux aussi nous rappeler qu'on avait encore une date du 19 décembre auquel quelques peuples congolais étaient accrochés. Mais ils ont laissé entendre qu'il fallait encore aller au Vatican et de retour qu'ils pouvaient trouver une solution puisqu'on ne pouvait pas aller.
Merci, Colette, pour conclure. Colette, vous êtes là, vous entendez?
Oui, oui.
Voilà, il nous reste moins de 45 secondes pour finir ce programme. Que faut-il retenir?
Il faut maintenant aller vers un accord de bonne foi où on doit dire exactement quelle est la date promise pour les élections, avec une commission électorale rénovée, crédible, fiable, qui organise correctement ces élections, et au bout du compte, un engagement crédible lui aussi de M. Kabila, comme quoi il ne se représentera pas à cette condition seulement.
En cas de non-accord, Colette.
On peut lui accorder un petit délai supplémentaire.
En 5 secondes, en cas de non-accord, Kabila est-il en difficulté ou Tshisekedi?
Kabila est déjà en difficulté, déjà aujourd'hui.
Merci à Colette pour cette conclusion. Merci à nous, à vous tous nos auditeurs de VOA Afrique. Michel Joseph, Eric Manrekis, à la prochaine. Au revoir.